France Inter, le 6-9 du week-end.
C'est la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Alain Baraton qui est admiratif. Bonjour Laetitia, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Alain. Mais c'est normal que vous soyez admiratif de notre talent à Patricia.
Mais je l'ai toujours été, sachez-le.
Alors Alain, on doit aller dans un château, mais d'abord vous me demandez de parler de Jean de La Fontaine qui a écrit que la plus belle victoire est de vaincre son cœur.
C'est joli comme phrase, hein.
C'est joli.
La plus belle victoire est de vaincre son cœur. C'est une magnifique citation extraite d'une œuvre poétique magistrale que Jean de La Fontaine écrit en soutien à son ami et protecteur Nicolas Fouquet. Ce texte sombre, qui a pour titre « Élégie aux nymphes de Vaux », paraît en 1661, quelques semaines seulement après que Nicolas Fouquet ait convié le roi dans son château de Vaux-le-Vicomte. La suite est connue. Devant tant de beauté, Louis XIV ne peut masquer sa colère et Fouquet est arrêté, jugé et condamné. Les jardins et le château sont alors abandonnés.
Et ils ont retrouvé depuis bien longtemps leur éclat, en fait, grâce à un homme aujourd'hui disparu.
Patrice de Voguet, qui s'est éteint le 19 mars de cette année. C'est lui qui a été le grand artisan de la résurrection de ce lieu unique en France et peut-être même dans le monde.
Oui, parce qu'on sait que le château de Vaux-le-Vicomte, c'est quand même votre château préféré.
Et oui.
Et qu'il célèbre les fêtes de fin d'année avec éclat, même si vous êtes à Versailles.
Enfin, et oui, tout à fait, comme quoi l'un n'empêche pas l'autre. On est revenu au temps de la splendeur voulue par Fouquet. Alors imaginez, Laetitia, 50 sapins dans la cour d'honneur, 4000 mètres de guirlandes lumineuses, un écureuil, eh bien oui, l'écureuil qui était l'animal fétiche du surintendant, eh bien un écureuil éclairé de 5 mètres de haut, mais aussi des chasses au trésor avec des noisettes dorées à trouver dans les jardins, des jambes mis à disposition des enfants, et trois projections, j'ai bien dit trois projections monumentales, tous les jours de 8 minutes, qui recouvrent toute la façade du château, c'est ça en ce moment, Vaux-le-Vicomte.
Et on est d'accord Alain, le château est fermé, mais le parc lui reste ouvert.
Oui, j'ai bien vérifié ce matin avant d'en parler pour être sûr de ne pas vous conduire sur des grilles fermées. Alors mieux que cela donc, Vaux-le-Vicomte, les jardins sont ouverts, il est en fait avec ses jeux d'eau qui, oui, les jeux d'eau fonctionnent en ce moment. Il y a aussi moyen, alors prévoir un petit supplément, je sais que vous êtes près de vos sous, quelques balades en calèche.
Arrêtez enfin
Elle est radine.
Oui,
parce qu'après je vous demande le prix de l'entrée.
Il a même été prévu des arbres à vœux. Vous venez avec votre petite enveloppe, vous mettez votre arbre à vœux.
Ah, c'est comme au Japon.
Eh bien, je trouve ça très intelligent et très drôle. Alors, revenir à Vaux-le-Vicomte, c'est marcher dans les pas de Fouquet, de Louis XIV et dans ceux de La Fontaine. Lui qui achève Élégie aux nymphes de Vaux, j'y reviens par ces quelques mots. S'il a cru les conseils d'une aveugle puissance, il est assez puni par son sort rigoureux. Essaie d'être innocent que d'être malheureux. Je trouve ça merveilleux. Alors pour ceux qui l'ignoraient encore, les jardins de Vaux-le-Vicomte sont à peu près à une heure de Paris, c'est en Seine-et-Marne. Ils sont ouverts jusqu'au 3 janvier tous les jours de 14 à 18 heures, sauf le 31 décembre. L'entrée est gratuite, Laetitia, uniquement pour les moins de 3 ans, mais payer son éco permet l'entretien de ce lieu magistral.
Et pour les autres, on vient de la part de Baraton, comme d'habitude.
On met ça sur le compte d'Alain Baraton.
Ah oui, c'est voilà. Ça, c'est
tous
pas
les
mal,
ans, j'ai quelques soucis à cause de ça.
C'est un dossier que nous avons. Mon cher Alain, vous allez répondre aux questions des auditeurs,
oui.
Parce que c'est votre job, hein, c'est pour ça que vous êtes payé aussi.
Oui, oh, bah, ça, parlons-en.
Non, on ne dit rien. On dit rien dessus. Michel, à cette question, j'ai mis une tige de figuier dans un verre et je vois naître deux petites filles. C'est un miracle qui fait du bien en ces périodes moroses. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire
hein? Rien. Regardez, profitez-en, le miracle va disparaître tout seul. Sans aucune intervention. C'est une réaction qui n'est pas normale, mais qui est classique dans le végétal. Il avait commencé à prévoir une fructification. La petite tige a encore suffisamment de sève pour donner l'illusion d'une fructification à venir. Tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Les figues
pas, en fait.
Vont sécher, tomber, et le bout de bois va sécher aussi.
Donc elle plante pas du tout.
Non.
Alors Pierre, il a un kumquat et un mandarinier en jardinière qui poussent depuis plusieurs années, mais jamais de fleurs et de fruits. Ils ont, on dirait, mon jardin, ils sont entretenus, mais rien ne se produit. Comment faire?
On va expliquer rapidement. Une plante, pour qu'elle se reproduise, et c'est le cas par exemple du kumquat, pour l'exemple du kumquat, il est auto-fertile, il n'a pas besoin d'avoir un copain ou une copine à proximité. Tout seul, il est peinard. Sauf qu'il faut que le pollen produit par les étamines se dépose sur le pistil. En temps normal, le vent peut aider, les oiseaux peuvent aider, les insectes peuvent aider. Là, le petit bonhomme, il est dans la cuisine, il est tout seul. C'est pas évident que ça marche. Donc, que faire dans certains cas? N'hésitez pas à prendre votre arbuste et à le secouer, tout simplement. Et avec un petit peu de chance, est en fleurs, eh bien oui, le pollen pourra tomber sur le pistil et ainsi donner naissance à des fruits. De temps en temps, il faut aider la nature. Vous savez, dans votre cuisine, la nature n'est pas tellement naturelle. Hein, elle est plus ou moins recomposée. Donc, aider de temps en temps les végétaux, eh bien, à se reproduire.
Yann a une autre question. Alors, qui peut ronger de l'intérieur les tiges de mes haricots verts et pourquoi mes navets deviennent-ils creux et fibreux? Est-ce une question de variété?
On fait simple. Les navets, c'est en été. Quand il y a une très grosse chaleur, ils ont tendance à ne pas aimer. Ils vont devenir creux et fibreux. Donc, le navet se produit généralement dans des zones mi-ombragées en plein été. On évite, ou on les met au pied des autres arbustes pour qu'ils profitent un petit peu de leur fraîcheur. Pour ce qui est maintenant des haricots, je crois que c'était la seconde question ou la première.
Oui, c'est ça, c'est les tiges de mes haricots verts sont rongées de l'intérieur.
La mouche, on l'appelle la mouche des semis. La mouche des semis, elle arrive, une petite mouche tranquille, peinarde. Elle est minuscule, elle est bien, elle est heureuse. Elle arrive et paf, elle pond dans la tige. Les petites larves se développent, et vu qu'elles se développent en mangeant le contenu de la tige, eh bien on a donc des petites galeries creuses dans les haricots. Ça vient de la mouche, comment dire, des semis. Comment faire pour éliminer les mouches? C'est une autre question. Là, il faudrait beaucoup plus de temps pour y répondre. C'est pas évident.
Mais j'ai encore une autre question par rapport à ça. Les haricots sont pas, c'est pas un produit de saison. C'est pas maintenant, les haricots.
C'est pas maintenant, non.
Donc ça veut dire que là, ces haricots à Yann, cet été, ils...
Non, ça veut dire que ce sont des gens qui, on essaye depuis pas mal de temps d'avoir une question, du moins que je réponde à la question. On reçoit énormément de questions. Et donc, vous avez des gens également qui, en hiver, pensent à ne pas reproduire les erreurs constatées cette année et se renseignent pour les productions à venir.
En gros, vous avez mis une question de cet été que vous aviez
Non, pas du tout. Vous avez simplement des gens qui sont avec des amis qui ont peut-être... ce sont des gens qui ont peut-être passé le réveillon ensemble et qui a dit, tiens, en fait, est-ce que toi, cette année, tes haricots ont bien donné? Il dit non, j'ai eu des troncs creux.
Pose la question
tu,
à Baraton.
Tu devrais en parler à Baraton.
Allez, Alexandre Raphaël, j'aime bien cette question.
Cette médisance, vous dites, c'est...
Mais
jamais vous n'aurez pour moi un minimum de...
Allez, Alexandre Raphaël dit, je crains que mon gazon ne dure pas du fait du travail des lombriques visibles par les petits monticules de terre. Est-ce normal ou faut-il faire quelque chose? On ne tue pas les lombriques.
Hein. Les lombriques, surtout pas, c'est très important. Ah oui. Savez-vous que les lombriques sont partout sur la planète? Il a été prouvé que si vous émettiez tous les êtres vivants, les mammifères, les poissons, les oiseaux, hop, sur une balance, les lombriques feraient le même poids. On ne touche pas aux lombriques, participent à la bonne circulation de l'eau dans la terre. Ils sont extrêmement précieux.
Rapidement, un livre, Alain.
Mon arbre, une éternité, c'est un homme qui rencontre un chêne, une merveilleuse histoire d'amour entre un chêne et un homme qui est brancardier. Mon arbre, une éternité, les textes sont de Claire Vellière, les illustrations de Bruno Cordillac, et c'est publié aux éditions du Contrefort.
Et ça coûte combien?
Ça coûte de 15 euros.
Et c'est gratuit quand on va en librairie de la part de Baraton.
Je vous l'offre. C'est votre Noël.
Mais puis moi, j'ai que dalle. Allez,
vous aurez demain, il va vous apporter des fleurs.
Merci Alain Baraton et à demain.